Quelle grâce de pouvoir croire à une époque où la foi est presque introuvable, où les gens doutent de Dieu et de ce qu'il a fait. C'est une grâce de pouvoir croire sans effort du cœur. Et puis encore, comme le dit l'Écriture, nous avons entendu deux ou trois pensées et paroles, la dernière sur l'amour. Et là, nous trouvons quelques passages dans les Saintes Écritures qui parlent de cet amour divin. Et il est dit ici au verset 8 de 1 Corinthiens 13, l'amour ne cessera jamais. Le don de prophétie aura une fin. Le parler en langue aura une fin. La connaissance aura une fin. Car c'est en partie que nous connaissons et c'est en partie que nous prophétisons. Et quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est partiel aura une fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'avais une pensée d'enfant. Je jugeais comme un enfant. Mais depuis que je suis devenu homme, je me suis débarrassé de la nature enfantine. Car maintenant, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai entièrement, comme j'ai été entièrement connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Quand nous lisons de tels passages de l'Écriture, un très grand désir monte en nous. Seigneur, fais qu'il en soit ainsi. Fais qu'il en soit ainsi dans notre vie comme nous le lisons dans ta parole. Comme tu voudrais qu'elle soit et comme tu voudrais le trouver quand tu viendras. Fais qu'il en soit ainsi par grâce. Est-ce que cela vous arrive aussi quand on lit de tels passages bibliques, on se vérifie, on s'examine du premier coup. On n'a pas besoin d'une demi-heure de mise en route pour s'examiner. Mais on se pose immédiatement la question. Est-ce vrai dans ma vie ce que nous lisons ici dans les Saintes Écritures? Dieu a-t-il déjà pu l'opérer? Ou est-ce simplement écrit? Nous croyons que nous vivons dans les jours où Dieu achève son œuvre. Mais cela doit être couronné dans l'amour divin. Paul dit même de la prédication, le but final de la prédication est l'amour. Si une prédication se fait sans amour, elle ne pourra pas accomplir ce pourquoi Dieu a envoyé la parole. Parfois, la parole est très, très tranchante et dure, mais elle doit être ancrée dans l'amour de Dieu et tout ce que le Seigneur aime. Et tout ce que le Seigneur aime, il est puni, il est châti, il les corrige, il les reprend, il les éduque. Il veut que nous ne restions plus des enfants mineurs, mais que nous agissons réellement comme Paul l'a dit ici. Quand j'étais enfant, je parlais et j'agissais comme un enfant. Mais maintenant, depuis que je suis devenu un homme, je me suis débarrassé de ce caractère enfantin, de cette nature enfantine. Je pense que nous devons tous nous examiner sur ce point et demander de tout cœur à Dieu de nous permettre d'atteindre le plein âge d'homme. Il me semble que ce verset est encore important. La deuxième partie du verset 12 ou encore le verset entier. Le verset 12, 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai entièrement comme j'ai été entièrement connu. C'est une pensée très importante. Seuls ceux qui ont été connus par Dieu avant la fondation du monde connaissent également Dieu à leur tour. Ce n'est qu'alors que s'établit ce lien avec Dieu que nous ne devinons plus et ne divinons plus ou ne devinons plus ou bien ne faisions plus des énigmes, mais que, comme Jésus l'a dit, désormais je vous parlerai ouvertement et non plus en parabole. Nous reviendrons encore à Jean 17. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 28, nous avons écouté cette parole merveilleuse. D'abord la question de savoir si le laboureur laboure quand même ou s'il sème aussi parfois. Et si on moissonne parfois et ainsi de suite. Mais vous savez que cette parole se situe juste après la plus grande annonce de tous les temps, c'est-à-dire après l'achèvement de l'œuvre que Dieu va accomplir. Et à ce sujet, je voudrais lire un passage du prophète Ésaïe au chapitre 28, à partir du verset 19. Chaque fois qu'elle passera, elle vous saisira, car matin après matin, elle passera de jour et de nuit. Et ce sera une terreur d'entendre une révélation, car le lit est trop court pour s'y étendre et la couverture trop étroite pour s'y envelopper. Car comme au mont Pérazim, l'Éternel se lèvera, comme dans la vallée près de Gibeon, il tremblera de colère pour faire son œuvre, une œuvre étrange, et pour exécuter son travail, un travail inhabituel. Maintenant donc, cessez de vous moquer de peur que vos liens ne se resserrent, car un jugement destructeur, comme je l'ai appris de la part de Dieu, l'Éternel des armées, est fermement établi pour toute la terre. Là aussi, nous pourrions nous plonger à nouveau dans ces pensées qui sont exprimées. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera lui-même. Combien de fois avons-nous pu dire cela? Parfois même avons-nous dû le dire ici et là. Lorsque des hommes attendent un grand homme ou même sept grands hommes qui doivent se présenter pour faire quelque chose de grand. Non! Il y a des choses que Dieu lui-même s'est réservé de faire. Et il en sera de même pour l'achèvement de son œuvre. Il envoie des serviteurs et des prophètes pour annoncer ce qui doit arriver, mais celui qui a commencé achèvera aussi. Et c'est pourquoi nous savons que cela se terminera bien. Si c'était des hommes, nous n'en connaîtrions pas l'issue. Mais cela se lit encore une fois. Car comme au jour, donc 28, Ésaïe 28, verset 21. Car comme au mont Pérazim, l'Éternel se lèvera. pas un prophète, pas un homme de Dieu. Le Seigneur lui-même se lèvera comme dans la vallée près de Gibeon et tous les ennemis seront placés comme un marchepied à ses pieds. Il se lèvera comme dans la vallée de Gibeon. Vous savez de quoi il s'agit dans ce passage. Lorsque Josué eut besoin de temps pour battre et vaincre les forces ennemies, il leva les yeux vers le ciel et dit, « Soleil, arrête-toi, toi aussi, et lune dans la vallée d'Ayalon. » Et il fut ainsi. Et l'Écriture dit, « Il n'y a jamais eu de jour pareil, ni avant ni après. » Mais l'Écriture ne dit pas qu'il n'y en aura pas d'autres, Avez-vous compris cela? Vous pouvez lire les deux temps de ce mot. Qu'est-ce que c'est? Dans, je crois, Josué chapitre 10 du verset 11, vous pouvez le lire. Il est dit ici, il, au verset 21 d'Ésaïe 28, la deuxième partie, il tremblera de colère pour faire son œuvre, une œuvre étrange. Et pour exécuter son travail, un travail inhabituel. Nous pourrions alors passer au récit de la création. Lorsque Dieu eut accompli son travail, il se reposa de son travail le septième jour et il vit que tout était bon. Dieu, à la fin du sixième jour dans lequel nous vivons actuellement dans l'histoire du salut, avant l'aube du septième jour de Dieu, qui sera le millénium, le royaume millénaire, Dieu achèvera son œuvre. Et le septième jour, il se reposera. Et nous nous reposerons avec lui, car ce sera le millénium, le royaume millénaire. Ensuite, il est dit ici, cessez donc de vous moquer. Le verset 22. Nous l'avons lu hier, qu'il y aura des moqueurs qui apparaîtront et demanderont, n'est-ce pas, où est donc son retour promis? Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas seulement promis son retour, il a annoncé aussi le jugement. Il a dit, le jour vient où il brûlera comme une fournaise. Et là même, les dignitaires crieront de toute leur force. Colline, tombez sur nous. Montagne, couvrez-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône et de la fureur de l'agneau. Après le jour de la grâce, après le temps de la grâce, il y a une étape, un jour de colère. Et c'est le jour où le jugement de colère s'abattra sur toute l'humanité qui n'a pas profité du jour du salut pour son salut personnel. À quoi nous a servi un jour de salut si nous ne nous laissons pas secourir dans ce jour du salut? Il est pourtant écrit, au jour du salut, il m'a secouru. Et ensuite, c'est le temps agréable. Maintenant est ce temps agréable. Maintenant est ce jour du salut annoncé. Mais quand ce jour sera passé, alors le jour du malheur arrivera. Le jour de l'Éternel qui brûlera comme une fournaise. Et puis justement, à la suite de cette immense promesse que le Seigneur nous a faite pour nous consoler, ici, il est dit qu'il se lèvera et qu'il accomplira lui-même son œuvre et son travail, une œuvre inhabituelle, un travail inhabituel, une œuvre déconcertante. La première partie s'applique à nous à 100% et plus précisément le verset 20. Car le lit est trop court, Ésaïe 28, verset 20, pour s'y étendre. Le Seigneur a toujours pris des exemples très pratiques de la vie quotidienne, de la nature, de tout. Lisez donc le sermon sur la montagne, lisez les évangiles. Toujours des exemples pratiques. Ici, il s'agit du lit. Oui, étendez-vous. Si le lit est si court et que vos jambes sont trop longues. Étendez-vous. Cela ne va pas bien du tout. Et puis, quand vous avez un peu de circonférence et que vous devez vous couvrir, là aussi, c'est encore trop peu. Si on se couvre là, on est à nu et on le fait. On essaie de se couvrir et ça ne suffit pas ici et pas encore là. Trop court ici, trop court là. Et nous avons compris depuis longtemps que malgré tout, nous sommes encore trop courts. Nous avons encore des manquements. Mais alors Dieu remédiera à notre manque de temps. Il trouvera un remède à notre manque de temps. Il s'élèvera lui-même et achèvera son œuvre. Loué soit son saint nom. Aujourd'hui, nous pouvons nous plaindre de notre manque de temps, n'est-ce pas? De nos manquements. Soyons heureux lorsque nous nous rendons compte que cela ne suffit pas. Ce serait grave si nous étions frappés de cécité et ne remarquions même pas que cela ne suffit pas ici, que cela ne suffit pas là. Et qu'ici et là, on n'est pas encore comme on devrait l'être. Rendons grâce au Seigneur qui a également pris des dispositions sur ce point et qui a pensé à nous le dire. Ce n'est pas un homme qui achèvera l'œuvre de Dieu, mais lui, le Seigneur lui-même, qui fera son œuvre, une œuvre étrange, son travail, un travail extraordinaire. Il mènera la chose à son terme, l'œuvre à son terme, avec l'Église des nations, puis avec Israël, et il mènera sa cause avec le monde entier. Et à la fin, il sera lui-même exalté par tout, au-dessus de tout, lorsque tous les rois seront descendus de leur trône et que tous les premiers ministres seront partis. Le Seigneur sera exalté et il règnera en roi sur toute la terre et nous avec lui. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Alors comme nous l'avons tous lu et entendu à propos du battage et ainsi de suite, il est dit ici, chaque chose doit être à sa juste place. Il est écrit ici, on ne bat pas le fenouil avec le traîneau à battre. Le verset 27, Ésaïe 28, verset 27. Parfois même en tant que prédicateur de la parole, nous n'avons pas toujours les bons outils pour agir correctement dans ce et un autre domaine. Que Dieu nous accorde d'utiliser la bonne parole en toutes choses, de mettre le bon outil et de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire par là. Nous pourrions même continuer ici. Mais je voudrais laisser un peu de temps à Frère Rousse parce que c'est tout simplement juste. C'est tout simplement juste ainsi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, j'ai été frappé par la manière dont le Seigneur nous met sur un pied d'égalité avec lui-même. Il dit, je ne suis pas de ce monde comme vous n'êtes pas de ce monde. Mais ce qui frappe directement dans les chapitres 16 et 17 de Jean, c'est l'expression répétée de croire qu'il est sorti de Dieu. Je lis le verset 26 du chapitre 16, évangile de Jean 16, verset 26. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Et je ne vous dis pas que je demanderai au Père pour vous, car lui-même, le Père, vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Est-ce que c'est juste? Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Ce mot sorti du Père, non pas j'étais à côté de lui, mais j'étais en lui, de Dieu seul. Dieu peut sortir, de Dieu ne peut que sortir Dieu lui-même pour appeler à l'existence une nouvelle génération, une nouvelle race, une nouvelle descendance divine. C'est pourquoi il est écrit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Une fois Dieu en esprit et une fois Dieu en chair. sur de telles choses. Je pourrais mettre sur la table. Je pourrais... Je ne sais pas pour vous, mais c'est une révélation. Et cela touche le cœur de la révélation divine. Non pas en passant à droite et à gauche de Dieu, mais cela touche le cœur de la révélation divine. Que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. À mon tour, je quitte le monde et je retourne au Père. Le verset 28. Au-dessus du verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ces déclarations seront un défi pour les théologiens de cette génération. Cela doit être mis sur le chandelier. Car regardez, nous en avons parlé ici. Dieu avait une race d'hommes, mais Satan a réussi à placer le genre humain sous son contrôle, sous son inspiration, sous son influence. Et puis, ensuite, Dieu a trouvé le moyen de se manifester sous forme humaine et ainsi de réparer ce que le premier Adam avait corrompu et de nous donner la vie éternelle par grâce. Ensuite, il est dit ici, au chapitre 17, ici, en effet, du verset 6, mais ensuite, spécialement du verset 8. Jean 17, verset 6. Verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Pas à tous, mais à ceux que tu m'as donné du milieu du monde. C'est à eux que j'ai révélé ton nom. Ceux-là savent que ton nom et le mien sont le seul nom dont il s'agit. Ton nom et le mien. Ils savent que le nom du Père et celui du Fils sont le même nom. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. C'est à toi qu'ils appartenaient. C'est à moi que tu les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Ils ont gardé ta parole. Ils n'ont pas interprété. Ils l'ont gardé. Ils l'ont reçu. Ils l'ont repassé dans leur cœur. Et l'ont gardé. Maintenant, le verset 7. Ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont reçues, et ils ont connu en vérité que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Tout simplement quelque chose de tout à fait merveilleux. Cela ne peut pas être dit plus clairement que ce qui a été dit ici, dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il nous a révélé le nom. Il nous a donné la parole. Et nous pouvons la transmettre. Le même nom, la même parole. Je crois qu'il est écrit dans Hébreux, le chapitre 2, verset 10. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, après avoir conduit beaucoup de fils à la gloire, de mener à la perfection à travers la souffrance l'auteur de leur salut. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, viennent du même Père. Ont le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le verset 12 en disant, j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Et dans un autre passage, verset 13, je mettrai ma confiance en l'Éternel. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ésaïe 8, 17, Ésaïe 8, 18. Ici, directement après la résurrection, notre Seigneur avait dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Il fallait qu'ils deviennent en tout point semblables à ses frères, afin que ses frères deviennent en tout point semblables à lui. Ici, Dieu a fait quelque chose de grand et de merveilleux. Bien sûr, si l'on lit aussi le verset 5 d'Hébreu 1, Hébreu 1, verset 5, « Car auquel des anges Dieu aurait-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et une autre fois, je serai pour lui père, et il sera pour moi fils. » Il dit encore au verset 6, « À propos du temps où il introduira de nouveau le premier-né dans le monde des hommes. » Souvenez-vous du mot « fils de l'homme », oui. Où il introduira de nouveau le premier-né dans le monde des hommes. Tous les anges de Dieu se prosterneront devant lui en signe d'hommage. Quant aux anges, il est vrai qu'il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais en ce qui concerne le Fils, ton trône, ô Dieu, demeure ferme dans toute l'éternité. Le sceptre de la droiture est le sceptre de ton règne. Et le sceptre de la droiture est le sceptre de ton règne. Tu as aimé la justice et tu as haï la transgression de la loi. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie en présence de tes semblables. Qui veut expliquer cela? Personne n'a besoin de l'expliquer. La chose est très claire en elle-même. Il fallait qu'un nouveau départ soit pris, soit fait, et le Fils de Dieu. Un commencement, le Fils de Dieu. C'est dans le Fils de Dieu que ce nouveau départ a été pris, a été fait. Je me répète ici avec joie. Le commencement de cette race divine. Notre Seigneur n'a pas seulement été engendré par l'Esprit. Il a été oint de l'Esprit. Il a été rempli de l'Esprit. Il n'a pas seulement reçu la position de Fils. Il a été établi dans la... Lorsque les temps étaient accomplis, il a exercé son ministère. De la même manière, nous devons nous aussi faire l'expérience que nous ne sommes pas seulement nés, que nous ne naissions pas seulement de nouveau et que nous soyons devenus enfants de Dieu, mais que Dieu puisse nous établir dans la position de fils, c'est-à-dire en tant que personne ayant atteint l'âge adulte, l'âge d'homme en Christ. Car Paul l'explique aussi très clairement, il dit, tant que l'héritier est encore un enfant, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la maturité, il n'y a pas de grande différence entre lui et le serviteur ou l'esclave. Mais si le fils a atteint l'âge adulte et que tout lui a été prescrit et confié, alors la différence entre le serviteur et le fils est très grande. Et Dieu veut nous amener à être nous aussi loin d'une onction divine, vraiment sainte. Qu'a dit Pierre à l'époque, lors de son deuxième ou troisième sermon, Jésus de Nazareth, que Dieu a oint et il est parti prêcher, etc. Et faire du bien autour de lui. Vous connaissez tout ce passage ici, dans les Actes des Apôtres. je n'ai certainement plus besoin de le chercher. Ce que nous devrions tous faire, c'est remercier davantage Dieu et comprendre ce qui nous a été accordé. Notre Seigneur est sorti de Dieu. Et s'il vous plaît, prenez aussi cela avec vous pour votre chemin. Celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés ont tous le même Père. Tous le même Père. Nous étions en Dieu comme il était en Dieu. Nous avons été choisis avant la fondation du monde comme il a été choisi avant la fondation du monde pour être offert en sacrifice pour les péchés. L'ensemble du plan de salut de notre Dieu avait été conçu avant la fondation du monde. Et nous pouvons donc réaliser en ces jours, reconnaître dans ces jours, ce que tout cela signifie, car cela va vers son point culminant. Et croyez-moi, tout à la fin, le Seigneur Dieu sera glorifié. Parmi toutes les nations et toutes langues confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Toute langue. Nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous le faisons avec joie. Nous confessons qu'il est le Seigneur, le même Seigneur qui a parlé à Moïse, à Abraham, le même hier, le même aujourd'hui et le même pour toute éternité. Amen. S'il vous plaît, frère Rousse, s'il te plaît, frère Rousse. Je crois que nous devons prendre à cœur toutes les paroles que nous avons entendues afin qu'elles ne passent pas à nos oreilles, mais que nous les intégrions en nous, les recevions en nous, que nous soyons affermis, que nous restions dans la parole, demeurons dans la parole, demeurions dans la parole. Si nous sommes sa propriété, nous ne pouvons pas faire autrement que de recevoir ce qui vient de lui. Et je crois que Dieu nous a aussi parlé en ces heures. C'est certain. Comment pourrait-il parler autrement? Il a laissé sa parole. Il a pris soin. Il a envoyé son serviteur et son prophète. Et comme nous l'avons encore constaté aujourd'hui, où était-ce hier soir, peu importe quand. Mais tout ce qui a été annoncé par lui doit s'accomplir. Et nous pouvons en être les témoins. N'est-ce pas une chose merveilleuse? En ces jours-là, les disciples étaient témoins de tout ce qui avait été annoncé par le Seigneur. Il leur a dit, il pouvait leur dire à l'avance, « Aujourd'hui, vous allez tous vous irriter contre moi. Vous allez tous vous éparpiller, disperser. » Il a dit, comment le savait-il? Il le savait. Il était le véritable, celui que Dieu avait annoncé. Il était venu. Personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit. Il savait ce qui allait se passer. Peut-être les disciples ont-ils pensé, comment tout cela va-t-il se passer? Ils n'avaient peut-être aucune idée que tout se passerait ainsi. Et du moins, pas du tout, que quelque chose devait lui arriver ou lui arriver à lui. Mais que tout devait se dérouler de la meilleure manière possible, c'est ce qu'ils ont pensé, selon leur compréhension. Mais cela ne s'est pas non plus passé ainsi. Tout s'est déroulé selon le plan de Dieu. Et il en va de même de nos jours. Nous pouvons avoir certaines idées, mais cela ne se passe pas selon nos imaginations. Tout se passe selon le plan de Dieu. Il se peut que nous le reconnaissions pas au premier abord, que nous y allions encore. Mais tout à coup, la lumière se fait. Je pense encore un peu en arrière. Quelques 20 ans en arrière, nous avons entendu les bandes. nous entendions les messages et certaines choses n'étaient pas claires pour nous. Parfois, nous ne savions même pas quelles décisions nous devions prendre. En tout cas, pas moi. J'ai tellement entendu parler du baptême, de ceci et de cela. Je n'avais pas encore compris que je devais me faire baptiser. Et il en va peut-être de même pour nous tous. Et même maintenant, certaines choses peuvent encore nous sembler incompréhensibles. Mais le temps vient où nous passons de clarté en clarté, de la clarté à la clarté, et nous en sommes si heureux et si reconnaissants pour tous ces enseignements tirés des Saintes Écritures. Nous sommes également reconnaissants que Dieu ait donné un messager pour nos jours. Ce n'est pas un bouquet de fleurs, mais peut-être que d'un autre côté, si. Frère Branham dit, mieux vaut un bouquet de fleurs si la personne est encore en vie, si je peux m'exprimer ainsi, qu'une couronne si elle n'est jamais plus là. Si elle n'est déjà plus là. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu les uns envers les autres. Les uns pour les autres. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le messager qui est venu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le messager qui est là, encore là, et nous sommes reconnaissants pour tout. Nous sommes déjà reconnaissants pour la compréhension que nous avons déjà et pour ce que nous n'avons pas encore, mais que nous allons encore recevoir. Pour cela aussi, nous en sommes très reconnaissants, déjà. Car Dieu, notre Seigneur, nous ouvrira davantage la compréhension de sa parole. Il nous guidera plus loin. Il continuera à nous montrer le chemin, même s'il est encore obscur devant nous et que certaines choses sont encore voilées, mais il nous guidera plus loin. Si seulement nous mettons toute notre confiance en lui, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous devons seulement remettre tous nos soucis sur lui. Il fera tout bien. Oui, c'est vraiment ce que nous sommes. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Tout remettre sur lui. Il fera tout pour nous. Parfois, on a l'impression que c'est nous qui sommes abandonnés. Mais ce n'est pas le cas. Il a promis de rester avec nous, avec son peuple. L'a-t-il dit? Il l'a dit. Je suis avec vous tous les jours. Oui. Enfin, ses disciples, si seulement cela n'avait été que pour ses disciples, ils devaient tous partir. Mais il a dit, jusqu'à la fin du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes de nouveau inclus, frères et sœurs. Nous sommes à nouveau inclus. Oh oui, nous étions déjà à ses yeux. C'est ce que nous lisons encore et encore dans les écrits de notre frère Branham. Oui, nous étions déjà, avant même que le monde ne soit fondé, nous étions déjà avec lui dans sa mémoire. Il nous voyait déjà. Il a vu tous nos jours, ta vie, ma vie, tout. Et il voyait aussi nos manquements, nos erreurs, tout. Il a vu. Quand nous regardons tout cela, nous nous sentons si petits, si misérables. Même un homme de Dieu, même frère Branham, il se sentait ainsi dans les erreurs et dans les transgressions. Mais d'un autre côté, il pouvait dire, la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et nous pouvons aussi dire la même chose lorsque nous nous sentons parfois si pauvres et misérables. Mais alors nous savons, il y a quelqu'un qui nous porte. Louange et remerciement soit adressé à son glorieux nom. Frères et sœurs, je crois que nous avons le privilège d'offrir l'honneur et l'adoration au Seigneur. Je pense qu'aucun d'entre nous ne devrait se taire, mais que nos cœurs devraient être ouverts, que nos bouches devraient être ouvertes et que nous devrions rendre grâce au Seigneur et l'adorer pour ces jours, pour ces heures précieuses, pour ce temps que nous pouvons avoir ensemble. Pensez donc, où serions-nous si la grâce de Dieu ne nous avait pas appelés? Peut-être l'un plus tôt, l'autre plus tard, mais la grâce de Dieu nous a appelés. Et peut-être en appellera-t-il encore d'autres. Nous voulons encore voir. Nous ne voulons pas que le dernier soit déjà appelé, mais nous voulons que plusieurs encore viennent. Que viennent encore ceux qui doivent encore venir. Et nous croyons fermement qu'ils viendront encore. Oui, le Seigneur est encore sur le plan. Et tout lui est soumis. Et nous lui en sommes si reconnaissants. Offrons-lui maintenant l'honneur, l'adoration et les remerciements. Frères et sœurs, nous ne devions pas comme ça hésiter, mais nous devions pour une fois nous sentir libres, si libres, si libres dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous ne devions pas regarder notre passé ou ce qui nous attend encore, mais nous devions élever nos voix, élever notre cœur et remercier notre Dieu. Après tout, peu importe ce qui peut nous arriver, tu ne peux pas changer grande chose à ton destin et moi non plus au mien. Mais ce que nous pouvons faire, c'est nous lever après que Dieu ait parlé. Je ne crois pas que Dieu se contente de parler ou de nous adresser sa parole parce que c'est comme ça, ce serait un hasard. Non, non, c'est une grâce particulière. Ce temps est un temps spécial, une grâce spéciale de Dieu pour toi et pour moi et pour nous tous. Et j'y ai tellement pensé que nous ne pouvons plus y échapper. Où devons-nous y aller? Où devons-nous aller? Où devons-nous aller? Comme l'a dit Pierre, où irons-nous? Nous sommes partis une fois comme Abraham l'a fait. Il est sorti. Il ne pouvait plus revenir en arrière, non. Ne jamais revenir en arrière, non. Nous devons aller de l'avant. Il attendait la ville qui devait être construite par Dieu. Oui, il attendait. Il la voyait déjà que quelque chose allait venir. Nous attendons. Nous sommes d'autant plus rapprochés du but maintenant. Oh, comme c'est merveilleux. Je pense que nous allons nous lever. Rendons tous grâce au Seigneur, adorons-le et élevons son nom, car il a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes heureux et reconnaissants. Oh Seigneur, Dieu fidèle, remercions encore une fois tous ensemble. Nous remercions encore tous ensemble pour la grâce, Seigneur, qui nous a été accordée à tous et pour ta parole, Seigneur, que nous avons pu entendre. Accorde-nous aussi à tous la grâce d'avoir reçu ta parole en nous, de la mettre ensuite en pratique, de garder ta parole, Seigneur, car tu as dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oh Seigneur, nous avons entendu ta parole sur l'amour, Seigneur, qu'elle ne soit pas seulement entendue, qu'elle se manifeste vraiment en moi, en nous tous, Seigneur. Que ton amour brûle en nous, ô Seigneur. Que ta parole, Seigneur, devienne si grande en nous, Seigneur. Inonde notre être, ô Seigneur. Que toute ta vie et ta nature nous soient données. Seigneur, tout ton être nous soit donné, Seigneur. Je demande tout cela pour moi et pour mes frères et sœurs, Seigneur. Pour tous ensemble, Seigneur. Tu nous as bénis en 16 heures et tu continueras à nous bénir. Je te prie de demeurer avec nos frères et sœurs sur le chemin du retour. Bénis-les tous. Bénis notre cher frère Franck, Seigneur, quand il repartira en voyage. Oh Seigneur, bénis ton peuple partout en tout lieu, Seigneur. Nous le demandons. Demeure aussi avec nous en ce lieu, Seigneur. Mon Dieu, tu nous connais. Tu sais, Seigneur, combien c'est parfois difficile, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es capable de nous aider. Tu nous as aidés, secourus, et tu continueras à nous secourir. Adoration et gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Amen.